Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, ce 11 novembre, parce que, eh bien, le 11 novembre, nous fêtons non pas simplement Saint-Martin, une mémoire de Saint-Martin, mais pour les moines, c'est une figure éminente de la vie monastique, si bien que chez nous, dans la congrégation, s'est élevé au titre de fête. Donc, nous avons un évangile qui n'est pas, et une lecture qui ne sont pas ceux que vous trouvez apparemment sur le site les sites habituels de la liturgie des heures en français, AELF, etc. Et nous avons Michée 6, 6-8 et Matthieu 25, 31, 46. Alors, Michée 6, 6-8, c'est un texte qui est assez connu, mais pas forcément de tout le monde. Michée dit, avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur, me prosternerai-je devant le Dieu de là-haut, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an, prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, des libations d'huile par torrent? Ça y va, hein. Et faudra-t-il que j'offre mon aîné pour prix de mon crime, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché? Alors voilà les réponses. On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que Dieu réclame de toi, rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. Voilà ce que nous entendons dans la liturgie aujourd'hui. Chez les moines, en première lecture, au sujet de notre cher et grand Saint-Martin. Et je trouve que cette dernière phrase est simplement bouleversante, quoi. Marcher humblement avec ton Dieu. Voilà, donc il y a cette idée de. La première chose importante ici, c'est qu'on ne marche pas tout seul, quoi. On n'est pas fait pour fonctionner tout seul. C'est dès le début de la Genèse, c'est dit, hein. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors évidemment, habituellement, c'est rapporté à l'idée de l'homme et de la femme, ce qui n'est pas faux du reste, parce que on a beau être, je ne sais pas si on peut dire qu'on est célibataire, parce qu'un consacré, il est lié d'une nuption, d'un lien nuptial à Dieu. Mais disons en tout cas qu'il vit dans une chasteté humaine, enfin charnelle, oui, je ne sais pas comment dire ça. Mais donc on ne vit pas tout à fait seul, mais il est donc question de marcher à côté de Dieu. Même pas à côté d'ailleurs, de marcher avec Dieu. Et alors de marcher humblement. Qu'est-ce que c'est que marcher humblement avec Dieu? Ça, c'est une vraie question. C'est quoi? C'est quoi? Parce que Dieu nous fait des dons. Regardons Saint-Martin, donc ces dons extraordinaires. C'est un homme, c'est un soldat, Martin, et qui est bouleversé en voyant un pauvre qui a froid, qui est gelé. Et alors Martin, qui est sur son cheval, sur sa monture, va déchirer, j'allais dire sa capamania, va déchirer ouais, c'est pas une toge, enfin je sais pas quoi, ce qu'il porte, il va la couper en deux pour en donner un morceau à ce pauvre. Et tous les soldats se fichent de Martin, qui a vraiment l'air d'un guignol avec son truc coupé là. Vous voyez, c'est très très mondain comme réaction, hein. C'est dans la vie de Saint-Sulpice-Sévère qu'on a ça, sauf erreur de ma part. Et la nuit d'après, ce pauvre lui apparaît en songe, et c'était Jésus, en fait. Voilà. Alors c'est bouleversant, vous voyez, parce que, en fait, l'humilité nous apprend à reconnaître Jésus sur notre chemin. Et il marche avec nous. Oui, ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il marche comme un potentat, comme quelqu'un qui est à côté, qui surveille, qui fait la pluie et le beau temps, ce qui est malgré tout, est un peu le cas, sauf qu'en fait, il a donné des lois à la nature et que c'est la nature qui agit par l'ordre de Dieu. Et en fait, marcher humblement avec son Dieu, c'est savoir redécouvrir que, attention, à côté de moi, j'ai quelqu'un. Qu'est-ce qui te dit? C'est qui, lui? Tu crois le connaître. Bon, d'accord. Quelqu'un qu'on connaît, on le connaît. Mais quelqu'un qu'on ne connaît pas. Combien de fois dans les histoires assez extraordinaires, on a quelqu'un qui a apporté quelque chose. L'histoire de avec Mère Teresa, ou des choses comme ça, où bah, quelqu'un est venu à apporter. Voilà. Et puis on ne sait pas qui c'est en fait. Voilà. C'est un ange, c'est Jésus, c'est voilà. Ou bien aux États-Unis, là, je ne sais plus, ça me vient à l'esprit cette communauté qui a besoin de construire un escalier impossible. Je raconte très mal l'histoire, excusez-moi. Mais un truc impossible. Vous savez peut-être que pour un architecte, un escalier, c'est un truc de fou, quoi. C'est très compliqué à construire correctement. Bon, moi, je n'y connais rien, donc je le répète. Et un jour, il y a un menuisier qui est venu les voir, qui leur a dit, je vais m'en occuper. Et il est reparti, elles l'ont à peine vu. Et l'escalier, c'est impossible, quoi. C'est un escalier impossible. Et il marche très bien, et il est là, on peut aller le voir. C'est un truc impossible. Bon, voilà. Donc, je ne peux pas vous en donner plus de détails. Mais c'est pour vous dire, voilà. Marcher humblement avec son Dieu, c'est aussi savoir reconnaître Dieu à travers les personnes que nous rencontrons. Et c'est exactement ce que Saint Martin a fait. Dans le fils des Vigiles, on a une antienne, donc le fils qu'on dit le matin, c'est tout. On a une antienne qui dit, le Seigneur Jésus ne va pas n'a pas annoncé qu'il reviendrait avec un manteau de pourpre et une couronne. Bon, je ne sais pas d'où sort cette antienne, j'ai pas été regarder, ce serait un peu long à faire. Mais elle m'a frappé, parce que c'est la même idée qui est derrière, voyez. Jésus n'a pas dit quand je reviendrai, il a dit je reviendrai sur les nuées. Oui, point. Voilà, bon. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Peut-être ça veut dire qu'il revient dans la brume, donc on ne le reconnaît pas très bien. Bon, voilà, c'est important. Et alors, je reviens à notre Saint Martin, dans la vie de Saint Martin. Il y a une représentation qui pourrait bien être à Assise du reste, de Saint Martin. Qui célèbre la messe, et pendant qu'il célèbre la messe, les anges tricotent, si je puis dire, le bout de sa chasuble dont il manque un morceau en rapport avec le geste qu'il avait fait quand il était encore soldat. Et je ne crois pas me tromper en disant que Claire de Castelbajac a travaillé en partie à cette restauration. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas. En tout cas, elle l'a vu de très près. Et je crois qu'elle déclarait approximativement quelque chose comme ce que ce type peut passer de foi quand on le restaure. Vous voyez, les images peuvent nous imprimer des choses extraordinaires. Voilà, c'est important de ne rien. C'est aussi ça, marcher humblement avec son Dieu, quoi. De savoir s'émerveiller. Les enfants s'émerveillent devant des insectes, des tout petits trucs. Bon, évidemment, une coccinelle, c'est assez génial, ou une petite souris. Bon. Mais aussi devant des choses étonnantes. Hein. Voilà, il ne faut pas que nous perdions ça. Et c'est ça, marcher humblement avec son Dieu. Et puis, toujours dans le Fils des Vigiles, les trois cantiques à la fin, on a trois nocturnes aujourd'hui. On avait Jérémie 17, béni soit l'homme qui s'appuie sur le Seigneur sera son appui. C'est assez poétique, je trouve, et c'est très beau de voir que c'est ça, marcher humblement avec son Dieu, quoi. C'est s'appuyer sur un Dieu qu'on ne voit pas, Ce qui est quand même pas très simple, hein. Appuyez-vous sur une table que vous voyez pas, vous nous expliquerez comment vous faites, hein. Enfin, Dieu, c'est pas une table. Et voilà. Et Dieu devient son appui. Ça se contemple indéfiniment. Et alors, je finis sur ce passage avec de l'Évangile. On a l'homélie de Saint Basile le Grand qui dit, au sujet du fait de donner ses richesses, puisque c'est quand même un signe particulier chez Saint Martin, d'avoir donné ce qu'il avait. Et Saint Basile le Grand dit, à qui est-ce que je fais du tort, dit l'avare, en gardant ce qui m'appartient? Je trouve que c'est assez frappant pour nous aujourd'hui, quoi. Mais quels sont, dis-le-moi, les biens qui t'appartiennent? D'où les as-tu tirés? Tu ressembles à un homme qui, prenant place au théâtre, voudrait empêcher les autres d'entrer et entendrait jouir seul du spectacle auquel tous sont droits. Tels sont les riches, les biens communs qu'ils ont accaparés. Ils s'en décrètent les maîtres parce qu'ils en sont les premiers occupants. Et voilà la très belle phrase, si chacun ne gardait que ce qui est requis pour ses besoins courants, et que le superflu il le laissât aux indigents, la richesse et la pauvreté seraient abolies. C'est une réponse, enfin, faudrait lire ça à l'ONU, vous savez, au siège de l'ONU, quand tout le monde préconise qu'en fait on est trop sur Terre et qu'il faut en zigouiller un paquet pour qu'on puisse vivre tranquille. Il n'y a pas assez à manger, si, si, il y a assez à manger. Seulement, voilà, le profit est là. Bon, voilà, sur ce petit commentaire, et puis je voudrais venir maintenant sur l'évangile qui est très long, l'évangile de Matthieu 25, 31, 46. Vous savez, enfin, on le connaît tous, hein, lorsque le Fils de l'homme reviendra pour juger, il mettra les boucs à droite et les brebis à gauche. C'est l'inverse d'ailleurs, je crois. Voilà. Séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite, voilà, c'est ça, et les boucs à sa gauche. Donc, je pense que vous connaissez cet évangile, hein, qui est quand même assez dingue, quoi. Alors le roi dira, venez les bénis de mon père. Les bénis, c'est ceux qui ont reçu la bénédiction. Je sais pas si vous voyez le truc, quoi. Et recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Donc, ce n'est pas avant-hier. Nous sommes tous prédestinés à recevoir le royaume de Dieu. Mais il y a ceux qui voudront bien et ceux qui auront fait tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Voilà. Donc, ce n'est pas une prédestination absolue. Elle dépend de notre conduite. Et alors, Jésus dit dans cette parabole, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Tu peux nous parler un peu ce truc-là, hein, parce qu'en ce moment, les étrangers, on en voit beaucoup, quoi. Vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prisonnier, vous m'avez visité. Vous êtes venu me voir. Et alors, vous savez que de l'autre côté, il y a la même chose, quoi. Le pendant de ce passage, c'est j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, m'avez collé à foutu à la porte. J'étais nu, m'avez laissé tout nu. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me soigner. J'étais en prison, m'avez pas visité. Et alors les deux groupes, hein, les brebis et les boucs qui exceptionnellement ont le don de la parole, disposent exactement la même question. Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir? Et de venir te voir. Et les autres disent, et de ne point te secourir. Voyez, ce qui est bouleversant là-dedans, c'est qu'aucun des deux n'a réalisé que c'est Jésus qu'il était en train de soigner, de visiter, d'accueillir, de nourrir, de vêtir. Par certains côtés, j'aurais envie de dire que cette parabole, en fait, elle n'est pas adressée à des chrétiens. Elle est adressée à des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est un peu violent ce que je dis, hein. Mais je me suis fait cette idée hier, je me suis dit au fond, est-ce que cette parabole est adressée à des chrétiens? Parce que si c'était des chrétiens, ils devraient savoir qu'en face d'eux, ils ont une image du Christ et que c'est le Christ qu'ils servent. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que nous agissons comme ça, nous agissons comme des païens. Et les païens, ils sont capables de faire des trucs bien, la preuve, hein, font partie des brebis. Voilà, je voulais juste relever ça, hein, l'étonnement des uns et des autres. Quand est-ce qu'on t'a vu affamé? On a l'impression qu'ils peuvent dire, non, 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 attends, on va t'expliquer, on n'a rien fait de tout ce que tu dis, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça, marcher humblement avec son Dieu. C'est-à-dire être tout le temps dans cette question, est-ce que Jésus serait pas derrière la porte par hasard? Vous imaginez quand quelqu'un vient frapper à votre porte? Je sais pas moi, dans votre bureau, votre chambre, dans votre maison. Et qu'à chaque fois vous disiez, tiens, c'est peut-être Jésus qui frappe. Ben, ça change quand même deux, trois trucs, quoi. Voyez. Et je pense que c'est ça aussi, marcher humblement avec son Dieu. C'est-à-dire porter à chaque fois au cœur cette idée que, et si Jésus revenait maintenant? Et si c'est pour moi qui venait frapper à la porte? Il y a plusieurs étages dans ce que je dis, évidemment, hein. Mais voilà, je trouve que cette fête de Saint-Martin est l'occasion d'être encore plus bouleversé, enfin comme toujours. Voilà, j'étais nu. J'étais nu. Quand on est dans le dénuement, quand on est dans la détresse, fût-elle psychologique, ou une dépression, une grande fatigue, ou... Voilà, on peut être porté à aller vers. Parfois, on n'est pas porté à aller vers. Quand on va à Lourdes, parfois, on est abordé par des gens qui nous racontent des trucs. Vous savez, après, on peut toujours se dire, bon, c'était... En fait, j'ai croisé qui là? C'était un ange, c'est une personne, c'était peut-être Jésus. Vous la reverrez jamais, cette personne, vous savez pas. Vous savez pas. Voilà. Donc soyons vraiment attentifs. Je pense encore, bon, pour finir, et je vais raconter cette histoire très très mal parce que je l'avais mal écoutée et que j'ai donc forcément mal retenu. C'était un moine de Solesmes qui nous avait raconté un jour que à Solesmes, à côté de Solesmes, il y a une. Je sais pas comment on appelle ça, un monastère, ça s'appelle peut-être comme ça, de bouddhistes, je crois. Et de temps en temps, ils viennent à Solesmes et ils sont assez fascinés de voir cette liturgie qui ne leur parle absolument pas, a priori. Et des fois, ils ont un peu des échanges entre eux, moines bonzes et puis bénédictins. Et donc, l'histoire, c'est que. Donc, c'est très mal raconté, excusez-moi, hein, mais. Le moine racontait qu'une fois un moine bouddhiste leur avait dit ben nous quand y a le téléphone sonne au monastère, quand on est appelé, avant de décrocher, on attend, je sais plus quoi, 30 secondes ou 1 minute, afin de se préparer, de se rendre disponible à la personne à laquelle on va répondre. Bon, imaginez le nombre de messages que vous avez sur le répondeur en 1 minute, quoi. Parce que les gens, si vous n'avez pas décroché au bout de 3 secondes, d'abord vous vous faites insulter. Bon, bref, même dans des monastères, hein, il y a des moines, ils n'arrivent pas à attendre 3 secondes avant de raccrocher. Hein, c'est hallucinant. Parce qu'on est dans ce monde-là, on n'y pense pas. Je veux dire, il n'y a rien de voilà, tout est normal. Moi-même, hein, je veux dire, je ne dis pas les autres. Voilà. Alors, le problème, vous allez me dire, bah, c'est pas commode, le smartphone, au bout d'une minute, il décroche. Bon, mais voyez l'esprit, quoi. Voilà. Se préparer, j'arrête ce que je fais pour me préparer à la personne que je vais accueillir. Yallah!